en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, notre invité a reçu conjointement avec Peter Grünberg le prix Nobel de physique 2007 pour la découverte du phénomène de magnétorésistance géante. Ces termes vous paraissent un peu barbares et pourtant, ils nous aident dans notre vie de tous les jours puisque cette découverte en 1988 nous a permis depuis de dédoubler la capacité de mémoire de nos disques durs, de nos ordinateurs, tout en miniaturisant les composés. Sans cette technologie, les ordinateurs portables n'existeraient pas, de même que les baladeurs MP3, sans quoi vous ne pourriez pas écouter Canal Académie dans les transports, par exemple. Mais plus que de la découverte en elle-même, c'est du découvreur, prix Nobel, que nous allons parler dans cette émission. En habit vert, professeur Albert Fert, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie, au cœur même de l'Institut de France, ici à Paris, institution à laquelle vous appartenez, puisque vous êtes membre de l'Académie des sciences dans la section physique. Alors, de Carcassonne, vous êtes né au spin des électrons. Il n'y a qu'un pas que nous allons franchir avec vous avant de devenir le physicien de la matière condensée que vous êtes, exerçant à l'unité mixte de physique CNRS Thalès à Orsay, et où également vous êtes professeur à Orsay. Remontons le temps et descendons dans le sud de la France, du côté de Carcassonne, où vous voyez le jour en 1938. Alors vous naissez un an avant la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Quel impact cet événement de l'histoire, celui-ci a-t-il eu sur votre enfance?
Il a eu beaucoup d'influence sur mon enfance, puisque mon père a été parti à la guerre, a été prisonnier de guerre jusqu'en 1945. Et donc, j'ai vécu à partir de ce moment-là. Mon père était professeur à Toulouse, dans un lycée. Mais à ce moment-là, nous sommes allés, mon frère et moi, vivre dans la ferme des grands-parents, dont j'ai eu une enfance de petit paysan, dans un minuscule village au pied des Pyrénées.
Donc, des parents absents pendant un temps, pendant six ans.
Oui, ma mère travaillait à Toulouse et venait de temps en temps nous voir dans ce village de Montclar.
Quels souvenirs vous gardez? Vous me disiez en préparant cette émission que vous alliez emmener les chèvres, paître.
Oui, j'ai eu une enfance de paysan. Ma première responsabilité professionnelle, c'était la responsabilité d'un petit troupeau de chèvres avec mon frère. Et donc, je les amenais brouter, je trayais le lait. Je connaissais beaucoup les travaux de la ferme, je plaçais des collets pour les lapins, pour les lièvres également. Enfin, j'étais bien loin de la physique.
Et pendant six ans, donc, si nous revenons un peu au domaine scolaire, pendant six ans, vous êtes dans une classe qui mêle plusieurs âges, puisque nous sommes dans une période
une petite classe où se mélangeaient les élèves du cours préparatoire au certificat d'études.
Comment vous allez avoir petit à petit ce goût pour la physique? Je suppose que ça se cultive.
Oui, mais la campagne, j'étais très familier des plants, des animaux et très loin de la physique. Et ensuite, au retour de mon père, nous sommes allés habiter à Toulouse. Mon père et ma mère étaient professeurs dans des lycées. En fait, mon père, à ce moment-là, était professeur dans un lycée, mais a préparé une thèse. C'était un homme très courageux. Et au retour d'Allemagne, du camp de prisonniers, il a préparé et soutenu une thèse. Et il est devenu ensuite professeur d'université et chercheur, à une époque où j'étais déjà assez grand.
Et professeur dans quel domaine?
En microscopie électronique, en physique. C'était un bon spécialiste qui a participé au développement de la microscopie électronique.
Et votre maman également était dans le domaine de la physique?
Non, elle était professeure d'économie dans un collège.
Donc vous étiez quand même baigné dans cet univers de l'enseignement.
Oui, à ce moment, à partir de Toulouse, à partir de ma vie à Toulouse, mon frère et moi, mon frère qui avait un an et demi de moins que moi, et moi, avons été des élèves studieux, comme le sont d'habitude les fils d'enseignants.
Alors, à 19 ans, vous partez assez tôt, vous montez à Paris, à l'ENS.
Oui, c'est ça, j'avais envie à Toulouse, j'étais tenté, très tenté par Paris, par la vie intellectuelle de Paris. Quitté Toulouse et donc j'ai préparé le concours de l'école normale supérieure.
Que vous avez obtenu?
Que j'ai obtenu à 19 ans. Et donc, très heureux, je suis allé vivre à Paris, rue d'Ulm, en plein cœur du quartier latin.
Pendant 5 ans, c'est ça, hein? Pendant 5
ans,
vous restez...
Oui, c'était une période très riche de ma jeunesse.
Justement, pas trop difficile.
Pas trop difficile.
Sur le plan des études, parce que je suppose qu'à l'ENS, on ne vous amuse pas.
Non, moi je fais beaucoup d'autres choses que la physique. Premièrement, l'ENS était un milieu très riche qui mélangeait des étudiants en sciences, mais aussi en lettres, c'est-à-dire en philosophie, en histoire, en littérature. Et donc, ces contacts étaient très enrichissants. Et d'autre part, j'étais en plein cœur cœur de Paris. Donc pour moi, c'était idéal, les musées, les clubs de jazz, les théâtres.
Et le jazz, d'ailleurs, nous y reviendrons au cours de cette émission. En 1963, donc vous sortez de l'école normale supérieure.
62, oui.
Et vous, 62.
J'étais 2 ans à Grenoble, j'étais enseignant à Grenoble pendant 2 ans.
Et vous débutez une thèse.
Plus tard, après le service militaire, en 64, je suis revenu dans la région parisienne, à Orsay, dans le laboratoire de Jacques Fridel, que j'avais déjà eu comme professeur à l'école normale supérieure, quand j'étais à l'école normale supérieure. Et j'ai démarré une thèse sous la direction de Ian Campbell, qui arrivait d'Angleterre dans ce laboratoire.
Donc Jacques Fridel, Ian Campbell, ce sont des noms qui jalonnent votre carrière, qui vous ont permis d'aller plus loin, en tout cas peut-être.
Oui, ce sont les premiers guides. Jacques Fridel a eu beaucoup d'importance. J'étais attiré vers la physique de la matière condensée, parce que j'avais bénéficié de l'enseignement très moderne de Jacques Fridel. Les cours de troisième cycle avaient créé Jacques Fridel avec les aspects très modernes de la physique de la matière condensée, beaucoup de mécanique quantique, de mécanique statistique. J'avais été attiré par cette partie de la physique grâce à Jacques Fridel.
Et justement, dans ce domaine-là, à cette époque, vous étiez le seul, le précurseur, où il y avait un noyau de recherche dans ce domaine.
Oui, je dois dire que Fridel a créé une école. Fridel a créé une école qui a été très, très importante pour l'essor de la physique française dans ce domaine, dans les années 60.
Donc, en 1970, c'est votre doctorat sous la direction d'Ian Campbell, c'est
oui,
ça
oui.
Et donc, après ces années 70, qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous devenez professeur?
Oui, pas tout de suite, oui. Je veux dire quelques mots de ce doctorat, parce que j'ai eu la chance d'avoir un sujet intéressant qui m'a beaucoup servi par la suite. C'était tester des prédictions du prix Nobel anglais Sir Neville Mott, qui prédisait que dans un métal ferromagnétique, le spin avait de l'influence sur la mobilité des électrons. Donc c'est des choses que j'ai pu démontrer expérimentalement, développer aussi des modèles. Et à cette époque même, j'ai eu dans ma thèse des expériences qui anticipaient le concept de la magnétoïssance géante. Donc les résultats de ma thèse sont importants pour la spintronique d'aujourd'hui. Après ma thèse, j'ai laissé tomber ces sujets puisque les technologies ne permettaient pas d'avancer vers la magnétoïssance géante et la spintronique, qui nécessitent des technologies très sophistiquées. J'ai travaillé sur beaucoup d'autres sujets, mais j'y suis revenu pour découvrir la magnétoïssance géante avec les technologies des années 80.
Donc en 1976, vous êtes nommé professeur
oui.
À Orsay. Et vous êtes resté en fait fidèle à Orsay.
Ensuite, oui, j'ai à part 2 années à Grenoble, j'ai enseigné le restant de ma carrière, j'enseigne à Orsay.
Sur le site de l'Académie des sciences, où il y a bien sûr une notice biographique de chaque académicien, on y détaille les travaux des académiciens. Sur cette période-là, bien sûr, je ne peux que lire, hein, parce que ce sont des termes un peu barbares pour moi. Donc, vous travaillez et vous établissez l'influence du spin sur la conduction électrique dans les métaux ferromagnétiques, c'est ce que vous venez de dire. Oui. Vous révélez les asymétries de la diffusion des électrons par des impuretés magnétiques.
Oui, c'est d'autres travaux. Bon, je suis content de cette période de ma recherche.
Vous montrez le caractère triédrique de l'anisotropie magnétique des verres de spin. Ça devient un peu plus compliqué.
Je ne vais pas vous l'expliquer, non.
C'est vraiment trop compliqué.
Vous rassurez sur votre fin, là.
Et dans le domaine théorique, vous avez introduit le modèle décrivant la conduction polarisée de spin dans les métaux ferromagnétiques ou encore des modèles microscopiques pour l'effet Hall extraordinaire ou les interactions anisotropes dans les alliages de type verre de spin.
Ça, ce sont les détails de ma recherche de l'époque.
Que vous avez abandonné par la suite.
Ensuite, je suis au milieu des années 80, sont arrivés les débuts des nanotechnologies. J'ai pu reprendre certaines idées, certains concepts que j'avais développés dans ma thèse, qui devenait possible de les appliquer dans des multicouches magnétiques. Ces 1000 feuilles aux couches extrêmement fines qu'il était impossible de fabriquer à l'époque de ma thèse, qu'il est devenu possible de fabriquer et qui m'ont permis de découvrir la magnétoïssance géante qui exploite l'influence du spin sur la conduction des électrons dont vous avez parlé si clairement. Et cette découverte aussi a ouvert la porte de ce qu'on appelle la spintronique, donc j'ai continué dans cette voie.
Donc effectivement, pour replacer les choses dans leur contexte, quand vous parlez de magnétorésistance géante, nous sommes donc en 1988, date clé. Quelques mots sur l'électronique des spins. Là, je fais référence à une autre vidéo que l'on peut voir sur Internet, il y a beaucoup de vidéos où l'on vous voit, où vous expliquez avec beaucoup de pédagogie comment on peut visualiser ces électrons et ces spins. Et donc, vous prenez une orange, une mandarine.
Oui, est-ce que vous avez une orange?
Non, je n'ai pas d'orange, je n'ai juste un stylo et un verre.
Oui, donc les spins ont une charge, hein, ça c'est la charge, et aussi en un spin que vous voyez, ce stylo. Et le spin, c'est l'axe d'un petit aimant qui est sur chaque électron. Et on peut dire que l'électronique classique utilise la charge de l'électron, mais ignore le spin. Et la spintronique, son concept général, c'est de piloter les électrons, de les faire bouger en agissant sur leur spin. Donc ça ajoute un levier supplémentaire qui permet d'obtenir d'autres propriétés et d'autres types de dispositifs.
Et c'est ce qu'on appelle donc la magnétorésistance ?
Non, la magnétorésistance géante a été le premier effet de ce type qui a ouvert la porte à d'autres effets, à d'autres phénomènes de spintronique qui composent maintenant le champ de la spintronique.
Et comment faire en sorte que cette magnétorésistance se manifeste ?
La magnétorésistance géante, c'est une propriété due à l'influence du spin sur la conduction électrique dans les métaux ferromagnétiques et que l'on observe dans des multicouches magnétiques. Ce sont des millefeuilles, vous savez ce que c'est un millefeuille en pâtisserie. C'est une multicouche, c'est un millefeuille, mais dont les couches de métaux comme le fer et le chrome, par exemple, sont extrêmement fines, quelques nanomètres. Et la propriété de magnétorésistance géante, c'est la chute brutale de résistance de ce millefeuille en présence d'un champ magnétique. Donc c'est lié à l'influence du spin sur la mobilité des électrons. Et c'est ce que vous utilisez dans votre ordinateur. Au fond, vous avez un tel millefeuille, vous n'avez pas remarqué. Dans votre ordinateur, sur le disque dur, il y a une multicouche magnétique qui se met à laisser passer le courant dès qu'on l'approche d'une inscription magnétique, ce qui permet de lire les inscriptions magnétiques.
C'est ce qui nous permet aussi d'avoir ces fameux MP3, baladeurs MP3,
oui,
et d'avoir autant de technologies
la propriété,
dans une si petite surface.
Oui. C'est ça, la sensibilité de lecture grâce à ces millefeuilles et à la magnétorésistance géante a permis de détecter des inscriptions beaucoup plus petites et donc d'en mettre beaucoup plus sur le disque. La capacité des disques durs a été multipliée entre la génération précédente et la génération actuelle à magnétorésistance géante par un facteur de quelques centaines. Vous pouvez mettre quelques centaines de plus d'informations.
Et on peut imaginer utiliser ce domaine de la nanotechnologie dans d'autres disciplines, autres que l'informatique ?
Mais les nanotechnologies, pour revenir encore sur les applications de la magnétorésistance, comme la capacité, il a été possible de mettre beaucoup d'informations même sur des disques tout petits, de la taille d'une pièce de monnaie, ce qui a permis l'extension de la technologie disque dur à tout ce qui est électronique nomade, c'est-à-dire iPod, baladeur, appareil photo, téléphone portable. Ça a été une des raisons de l'importance de cette découverte, l'extension d'une technologie qui a bénéficié à beaucoup d'électronique grand public.
Et c'est ce qui est utilisé par exemple aussi dans le domaine des puces à ADN ?
Des puces à ADN, oui, il y a certains types de puces à ADN utilisent pour détecter le nombre de molécules piégées des capteurs à magnétorésistance géante, oui. Je dirais que la magnétorésistance, c'est plutôt du passé. Je crois qu'elle a ouvert la porte au développement de tout un champ de recherche qu'ils appellent la spintronique et qui rassemble d'autres types de phénomènes liés toujours à l'influence du spin sur la mobilité des électrons. Et donc la spintronique a révélé énormément d'autres phénomènes qui auront d'autres applications. Par exemple, nous travaillons actuellement sur des phénomènes qui s'appellent les phénomènes de transfert de spin, dont les applications seront essentiellement dans la génération d'ondes radio et avec des applications dans le domaine des télécommunications. Si vous voulez, des choses complètement différentes, des applications de type disque dur dont vous avez parlé, voyez.
Je vous propose de marquer une courte pause, Albert Fert. On se retrouve tout de suite après pour parler rugby et jazz.
Rugby.
À tout de suite.
Jean d'Ormesson sur Canal Académie, immortel depuis le 18 octobre 1973, date de son élection à l'Académie française, Jean d'O, comme l'appellent familièrement ses lecteurs, n'a pas attendu cette date pour devenir un écrivain célèbre. Retrouvez Jean d'Ormesson sur Canal Académie avec Elisabeth Antebi dans notre émission En habit vert.
Suite de notre émission En habit vert, toujours en compagnie d'Albert Fert, prix Nobel de physique 2007, membre de l'Académie des sciences. Dans cette deuxième partie, Albert Fert, nous allons parler de rugby, de jazz. Mais avant de parler de ces deux disciplines, nous allons poursuivre sur vos activités actuelles à l'unité mixte Thales-CNRS, CNRS-Thales plutôt. Vous travaillez uniquement sur la spintronique ?
Oui, la magnétorie a donné le coup d'envoi de la spintronique, du développement de ce domaine très vaste de recherche qu'ils appellent maintenant la spintronique. On peut dire que c'est un nouveau type d'électronique qui, contrairement à l'électronique conventionnelle, va exploiter à la fois la charge et le spin des électrons. Donc cette spintronique se développe sur des axes très divers et nous travaillons sur une demi-douzaine de directions différentes dans ce domaine.
Comme vous êtes fondateur, d'ailleurs je n'ai pas précisé, c'est vous qui avez fondé cette unité mixte
en 1995.
Vous êtes toujours à la tête de cette unité ?
La tête scientifique, je ne m'occupe pas, il y a un directeur officiel qui s'occupe de la direction et je préfère conseiller scientifiquement toute l'équipe.
Donc en 1995, quand vous avez fondé cette unité, vous aviez déjà une équipe sous votre aile ?
J'avais déjà une équipe. L'équipe qui a démarré devait comprendre une demi-douzaine de personnes. Et actuellement, il y a une vingtaine de personnes dans l'équipe, y compris les doctorants et les post-docs.
Et vous avez pu ouvrir cette unité facilement ?
Oui, le CNRS a été très réactif, Thales aussi, pour créer, on a créé en moins d'un an cette unité, quand on a vu l'importance de ce nouveau domaine de recherche qu'ils appellent la spintronique.
Pour revenir à votre prix Nobel que vous avez reçu, c'était en octobre 2007. Hein.
L'annonce a été en octobre 2007, la cérémonie en décembre.
En décembre. Lorsque vous avez reçu ce prix Nobel, c'était un prix conjoint, hein, dont le titre portait sur la découverte du phénomène de magnétorésistance géante. Vous avez reçu ce prix conjointement avec Peter Grünberg.
Oui.
Vous aviez fait cette découverte indépendamment l'un de l'autre.
Oui, en arrivant par des chemins différents.
Vous vous étiez connu avant de vous voir
Non, je connaissais certains de ses articles avant, mais je l'ai rencontré pour la première fois physiquement à une conférence scientifique, quelques mois après la découverte de la magnétorissante géante.
Et donc
à ce moment-là, nous avons commencé à discuter. D'ailleurs, nous avons eu depuis toujours des relations très, très fair-play et très amicales.
Il n'y a pas de rivalité.
Ça existe beaucoup dans le milieu de la recherche scientifique. C'est une compétition et il y a parfois des rivalités saignantes. Mais avec Grünberg, non,
c'était
ça s'est bien passé, c'était courtois.
Donc vous avez reçu ce prix Nobel, il y a bien sûr une somme qui va avec.
Oui.
Qu'est-ce que vous allez faire avec ?
Qu'est-ce que je vais faire ? D'abord, je la distribue à un certain nombre de personnes, qu'ils soient mes collaborateurs ou mes enfants. Et puis avec le reste, je vais réfléchir. Je n'ai pas le temps de réfléchir, j'ai tellement de choses à faire depuis ce prix Nobel que je n'ai même pas le temps de réfléchir à ce que je vais faire avec cette somme d'argent.
Jean-Marie Laine, qui est aussi membre de l'Académie des sciences, s'est offert un piano avec son prix Nobel. C'est peut-être aussi votre idée, vu que vous aimez beaucoup la musique.
Oui, mais je ne joue pas de piano. Alors, ce serait inutile. Par contre, j'aime beaucoup la Méditerranée, les Pyrénées. J'ai une maison qui est un peu vieille. Et je crois que je vais consacrer une partie de cet argent
à la restauration
de cette
maison.
Une maison
peut-être familiale.
Familiale, oui.
Justement, venons-en donc à cette partie peut-être moins connue du physicien que vous êtes.
Ouais.
Pendant longtemps, vous avez été un joueur de rugby.
Oui, bien sûr. Comme beaucoup d'adolescents, j'ai fait du sport. J'ai fait
du
sport
sud-ouest.
Du sud-ouest. J'ai fait du sport, du rugby pendant 20 ans, de 15 ans à 35 ans, à Toulouse, à Grenoble, à Paris, en Angleterre. J'ai d'ailleurs une petite anecdote intéressante sur l'Angleterre. Je jouais à l'Angleterre dans l'équipe d'une petite ville qui s'appelle Otley, à côté de Leeds. Et dernièrement, un collègue de l'université de Leeds m'a envoyé une coupure de journal dont le titre était « Ex-Otley rugby player wins Nobel Prize
». Donc ça, c'était pour le rugby. Mais maintenant, vous êtes un fervent pratiquant du windsurf.
Oui, j'ai toujours beaucoup aimé le sport. J'ai fait du ski, j'ai fait du tennis. Et puis, j'étais un peu mordu de planche à voile. J'aime bien, il y a de bons vents. À Banyuls, sur la côte catalane, où j'ai une maison, il y a parfois de très bons vents. Et j'en profite.
Donc, vous faites beaucoup de déplacements entre Paris et la banlieue parisienne.
Non, ça, malheureusement, j'aimerais en faire plus. Mais dans 15 jours, je vais faire du windsurf dans les Caraïbes.
Donc c'est un plaisir que vous vous faites de temps en temps,
oui.
Entre
les
moments
hiver,
où vous êtes dans le laboratoire, ouais, avec votre blouse blanche et le moment où vous sortez.
Oui, c'est ça, ma femme et moi partons.
Une autre passion, c'est la musique et plus spécifiquement le jazz.
Oui, je suis assez passionné de jazz, j'en écoute
beaucoup.
Comment
vous tombez dans le jazz ?
Dans ma période d'école normale, j'ai écouté beaucoup de jazz à Paris.
L'époque Saint-Germain peut-être ?
L'époque Saint-Germain, les boîtes de Saint-Germain. Je me rappelle d'une soirée fantastique au Club Saint-Germain, avec les Chess Messengers de Art Blakey. Je crois qu'un musicien qui m'a beaucoup inspiré à l'époque, c'est Parker, Charlie Parker, avec cette musique tendue qui exprime un monde intérieur, et toujours des improvisations toujours différentes. Et puis ensuite, Thelonious Monk, Miles Davis, John Coltrane.
Un autre musicien que vous m'aviez cité, c'est Eric Lenini, mais lui qui est un contemporain.
Oui, actuellement, je vais écouter souvent du jazz. En fait, il y a deux musiciens qui ont joué pour moi à des fêtes qui m'ont été organisées. Deux pianistes, Laurent De Wilde, qui est un pianiste et ancien élève de l'École normale supérieure également. Et Eric Lenini, qui est un jeune musicien très doué également.
Sur le site Thales, CNRS Thales, il y a donc une vidéo qui vous est consacrée où on vous suit.
Oui.
Avant que vous ne receviez le prix Nobel des mains du roi de Suède.
Mmh.
Et après, on suit le avant-après, ça dure 5 minutes. Et après, on vous voit avec des jeunes et la voix off explique que vous êtes impliqué dans l'accès aux jeunes à la formation scientifique.
Oui, c'est notre responsabilité d'enseignants, d'intéresser les jeunes aux sciences. Actuellement, beaucoup de jeunes sont attirés par le milieu des affaires, alors qu'il est important pour la France, pour l'Europe, d'avoir de bons scientifiques.
Vous êtes un fervent militant, prenez la culture scientifique par le biais de plusieurs méthodes, que ce soit aussi bien par la main à la pâte, par exemple, qui est une initiative...
Oui, je ne participe pas à la main à la pâte, mais j'ai donné un certain nombre de conférences dans des lycées ou dans des écoles. Moi, j'essaie de convaincre les jeunes que le métier de scientifique, de chercheur, est un métier de création qui réserve beaucoup de plaisir.
Comme vous êtes dynamique et que vous êtes dans l'air du temps, si j'ose dire, peut-être que vous avez été approché pour travailler sur un rapport, d'une manière ou d'une autre, en lien avec le gouvernement, peut-être, dans le cadre de la recherche.
Bien sûr, on demande mon avis sur un certain nombre de problèmes concernant la recherche et les universités. Et c'est un domaine où j'ai des avis à donner.
Et alors, quels sont-ils, vos avis?
Je considère, par exemple, que la qualité de la recherche française vient en grande partie du CNRS, un organisme qui a bien coordonné, qui a bien pensé la stratégie de recherche. Je suis un défenseur du CNRS, je voudrais qu'on conserve cet outil-là, en parallèle avec l'Agence nationale de recherche, qui a un rôle différent. Par ailleurs, je plaide aussi pour que j'étais enseignant-chercheur, j'ai vu l'augmentation progressive des charges d'enseignement. J'en ai souffert, parce que c'est devenu très difficile d'enseigner et de faire de la recherche. Je vois les jeunes enseignants-chercheurs souvent écrasés par les charges d'enseignement, mettons 2-3 fois plus que dans les universités américaines de bon niveau. Et je plaide aussi pour qu'il y ait une transformation des universités avec la possibilité pour certains enseignants-chercheurs de se consacrer à la recherche de façon à être compétitif dans la compétition internationale.
Est-ce que la question de la fuite des cerveaux pour aller faire ses études et être rémunéré en tant que tel, c'est une question qui se pose. Est-ce que ça s'est posé pour vous, par exemple?
Pour
moi,
oui, j'ai eu des propositions, mais je suis resté en France pour d'autres raisons, pour des attachements, par exemple au sud de la France, aux Pyrénées, à la Méditerranée. Et puis, à partir du moment où j'ai eu une très bonne équipe pour travailler, j'étais moins tenté d'aller aux États-Unis.
Mais vous auriez pu faire votre thèse, votre doctorat, par exemple, aux États-Unis.
Oui, j'aurais pu la faire. J'ai hésité, mais j'ai choisi de la faire dans l'équipe, dans le labo dirigé par Friedel, à Orsay.
Et vous comprenez que les jeunes chercheurs actuellement partent à l'étranger pour poursuivre?
Oui, de toute façon, c'est un mouvement assez général. Les États-Unis attirent beaucoup de post-docs, ce qu'on appelle les post-docs, après la thèse. Donc, il n'y a pas seulement en France, mais tous les pays européens, les pays asiatiques envoient beaucoup de post-docs aux États-Unis. Bon, c'est utile et c'est instructif, mais ce que l'on constate, c'est qu'il n'y a pas de mouvement sans inverse. C'est-à-dire que un certain nombre de ces post-docs se fixent aux États-Unis, donc font bénéficier les États-Unis de leur potentiel, potentiel de matière grise. Et le transfert inverse ne se fait pas. Donc les États-Unis profitent des post-docs européens.
Est-ce qu'il y a un thème sur lequel vous aimeriez revenir, ou alors un autre thème que nous n'avons pas abordé et qui vous est cher?
Non, je peux parler de pourquoi j'étais passionné par ce métier, intéressé par ce métier de chercheur. Parce que, en fait, à l'époque de ma jeunesse, j'étais aussi attiré par d'autres métiers, des métiers artistiques. J'ai fait un film quand j'étais jeune, j'étais attiré par le cinéma. Et bon, mais ce film n'était pas très réussi. Donc j'ai,
en qualité de scénariste, réalisateur
Réalisateur, scénariste. Et si finalement j'ai choisi la physique, c'est que pendant ma thèse, j'ai constaté que le métier de chercheur était un métier de création, que c'était passionnant d'imaginer des constructions dans son esprit, de construire des scénarii et de voir ensuite, après des textes expérimentaux, se concrétiser ses idées dans une réalité. Et ça, c'est passionnant de suivre ces idées et de les voir se concrétiser. Au fond, on a l'impression d'être, d'explorer une région inconnue. Et à chaque tournant du chemin, on découvre de nouveaux paysages et on voit de nouvelles perspectives et on voit des chemins où aller pour explorer de nouvelles contrées. C'est passionnant.
Et un domaine qui est la création qui ne vous fait pas peur, puisque justement, vous avez, je suppose, épaulé vos enfants qui sont justement dans le domaine artistique.
Mon épouse étant aussi passionnée d'art, je crois qu'on a élevé nos enfants dans un certain esprit et qu'ils ont choisi des métiers artistiques. Ma fille est scénariste, vous pouvez voir certains de ses films sur les écrans parisiens, et mon fils est photographe.
Est-ce que votre fille réalise justement une partie du parcours que vous n'avez pas réalisé ?
Peut-être, peut-être, c'est difficile à dire. J'ai été un bon photographe aussi quand je...
Ah mais vous voyez, vos deux enfants portent le fruit d'une partie
mais
de votre parcours.
Mais ils ont leur personnalité.
Eh bien, je vous remercie Albert Fert de nous avoir rendu visite.
Je vous remercie Elodie.
Je suppose que vous devez faire beaucoup de conférences maintenant, déjà avant votre prix Nobel, mais je suppose que les choses se sont accélérées et que vous avez peut-être un emploi du temps à tenir.
Oui, un emploi du temps très dur. D'autant plus qu'avant le prix Nobel, il y a eu le prix du Japon, cette fois remis par l'empereur du Japon et non pas par le roi de Suède. Donc, ça a été un enchaînement difficile à tenir.
Vous repartez peut-être bientôt, justement, à l'étranger pour faire des conférences.
Je pars aux États-Unis dans une semaine exactement.
Eh bien, nous vous souhaitons bon voyage pour les États-Unis. Et puis, nous invitons nos auditeurs à télécharger sur notre site également la séance publique de l'Académie des sciences, puisqu'il faut le rappeler, les séances, la plupart des séances de l'Académie des sciences sont publiques, ouvertes à tous, consacrées au spintronique aujourd'hui et demain. C'est ça, le présent et le futur de la spintronique.
Écoutez, je ne me rappelle plus le titre, ce serait sympathique si vous me le rappeliez d'ailleurs.
Et je crois que c'est le titre en fait, présent et futur de la spintronique. Et bien voilà, nous invitons nos auditeurs à télécharger cette conférence qui sera bien sûr disponible sur notre site internet www.canalacademy.com. Merci beaucoup Albert Fert et puis
merci.
À une prochaine fois certainement. Merci beaucoup.